Chapitre 3e. Si le plus souvent Hélène n'avait pas vu la main d'où partaient les coups dirigés contre elle, cependant elle avait été bien des fois prise à partie directement par le vicaire, qui ne manquait pas une seule occasion de lui témoigner ses sentiments d'hostilité et qui même cherchait et provoquait ces occasions. Il ne craignait pas, lui, de se mettre en avant, soit qu'il fût emporté par la violence de son caractère, soit qu'il crût que son devoir l'obligeait à poursuivre sans ménagement la lutte engagée contre une ennemie dangereuse. Le dimanche qui avait suivi la rentrée des classes, Hélène avait recommandé à ses élèves d'arriver dès 9 heures à l'école pour partir et se rendre tout ensemble à l'église. Ce tout ensemble ne formait pas une grosse troupe, puisque les protestantes n'en faisaient point partie. Mais ce n'était point par le nombre qu'Hélène voulait qu'on la remarquât, c'était par l'ordre et la tenue. C'était pour cela qu'elle avait recommandé à ses élèves d'être à l'école dès 9 heures, bien que la messe ne commençât qu'à 10. Elle voulait avoir le temps de passer sa petite troupe en revue, et de nettoyer, de peigner, d'arranger celle de ses enfants qui, ignorant ce que c'était que la propreté et le soin, arriveraient en trop misérable état. Elle achevait la toilette de ses enfants comme le premier coup de la messe tintait. Cependant, elle n'était pas partie tout de suite, voulant laisser les sœurs entrer les premières. Bientôt, celle-ci avait paru en une longue file espacée habilement de manière à remplir toute la place. Ça avait été seulement après les avoir vus disparaître sous le porche qu'Hélène s'était mise en marche à son tour. Lorsqu'elle arriva dans l'église, les élèves des sœurs occupaient déjà leurs chaises. Debout à côté des fonds, elle aperçut le vicaire qui semblait posté là pour l'attendre. La veille, elle était venue demander qu'on lui désignât une place pour ses élèves, et en l'absence du curé et du vicaire, le sacristain lui avait dit qu'elle pourrait se mettre à la suite des élèves des sœurs. Elle allait donc se diriger de ce côté, lorsque l'abbé Périchard, se plaçant devant elle, l'arrêta de la main, mais sans la regarder. « Où allez-vous ? » ?»« À ma place. » »« Vous n'avez pas de place dans ce saint lieu. » »« Le sacristain m'en a assigné une. » Il n'avait pas qualité pour le faire. Ce dialogue s'était échangé à mi-voix et à mot rapide. Cependant, tous les fidèles qui étaient déjà arrivés s'étaient curieusement tournés vers le vicaire et l'institutrice, tâchant d'entendre ce qui se disait entre eux. Un moment décontenancé, Hélène s'était remise. « Alors veuillez m'expliquer où nous devons nous placer. » De la main, le vicaire lui désigna un coin des bas-côtés à gauche de la porte d'entrée et qui était l'endroit où, dans les jours de la semaine, on entassait les chaises disséminées çà et là le dimanche dans toute l'église. Sans répliquer, Hélène conduisit ses élèves à cette place, et comme il n'y avait pas de chaises arrangées pour les recevoir, elle se mit à en atteindre un tas appuyé contre le mur. Vivement, le vicaire arriva près d'elle. « Il n'y a pas de chaises pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mes élèves, qui ont bien le droit d'en avoir en les payant. » Et elle continua de passer des chaises à ses élèves les plus grandes. Ça avait été au tour du vicaire de rester déconcerté, il n'avait pas prévu cette résistance. « Si vous continuez ce tapage scandaleux, » dit-il d'une voix à peine intelligible, tant elle était saccadée, « j'appelle le Suisse pour qu'il vous fasse sortir. » Hélène, sans parler, regarda le vicaire en face, non d'un air de défi, mais avec le sentiment de son droit et de sa dignité. De pourpre qu'il était, le vicaire blêmit. Ses lèvres, agitées d'un tremblement nerveux, se décolorèrent. Heureusement, les cloches sonnèrent. Et le rappel calma instantanément l'abbé Périchard comme si elle lui avait rendu la raison. Il détourna les yeux et s'éloigna à grands pas. Il remonta vers le chœur. L'institutrice avait insulté le vicaire. C'était donc un démon, cette fille-là. Il y eut des dévotes qui regrettèrent que l'abbé Périchard ne l'eût pas aspergé d'eau bénite. Bien sûr, on l'aurait vu se dissiper en fumée. Il ne serait resté d'elle qu'une odeur de soufre, ce qui est l'odeur spéciale des diables, comme chacun sait. Malgré son calme apparent, Hélène n'en avait pas moins été bouleversée, et d'autant plus profondément qu'elle s'était imposé ce calme. Pendant toute la messe, elle n'avait pensé qu'aux paroles et à l'attitude du vicaire. Pourquoi s'acharnait-il ainsi sur elle? Sans doute elle comprenait que théoriquement il fût son adversaire, mais ce n'était pas son adversaire qu'il se montrait, c'était son ennemi. Et dans cette hostilité, il semblait qu'il eût quelque chose de personnel, comme s'il l'avait blessée ou comme s'il la craignait. À genoux dans son coin, sur les pierres vertes et gluantes qui la glaçaient, elle réfléchissait ainsi, se reprochant d'être si peu attentive à la messe. Peu de temps après, il y eut le soir, à l'occasion d'une fête de saints, un salut auquel furent convoqués les élèves des écoles. Hélène eut tout d'abord envie de ne point y aller, cela n'étant point obligatoire. Mais ayant consulté son conseil, le bonhomme Valpinson, qui lui dit qu'il y conduirait d'autant plus exactement ses élèves que cela était absurde, elle décida de s'y rendre aussi. Dans ce salut, dirigé par le vicaire, car le curé n'aimait pas beaucoup les offices de nuit, qui dérangeaient sa digestion, c'étaient les fidèles eux-mêmes qui chantaient des cantiques que l'abbé Pierrichard entonnait. Comme il y avait peu de monde et qu'il importait de remplir autant que possible l'église, on avait tiré Hélène de son coin et on l'avait placée dans la nef, ce qui était un honneur auquel ses élèves, humiliés d'être le dimanche relégués dans ce qu'elles appelaient le marais, étaient fort sensibles. Bien entendu, Hélène faisait sa partie dans ses cantiques. Tout à coup, elle s'entendit interpeller par le vicaire. « Arrêtez un peu, je vous prie. Pourquoi chantez-vous faux, la maîtresse d'école ?»«
Je ne savais pas chanter faux. »«
Comme si vous ne le faisiez pas exprès, pour troubler le salut. » Elle se tut, pensant ainsi échapper à une nouvelle algarade. «
Pourquoi ne faites-vous pas chanter vos élèves ?» dit le vicaire. « Ce n'est pas la peine de les amener si elles doivent nous donner le scandale de leur indifférence. »
Si elle chantait, elle était en faute. Si elle ne chantait pas, elle y était également. La situation était difficile. Il lui sembla que le mieux encore était de tâcher de désarmer le vicaire par la patience. Il se lasserait peut-être de la poursuivre. Et il ne s'était point lassé, et chaque jour, dans toutes les occasions, elle l'avait trouvé aussi dur, aussi acharné contre elle, et particulièrement dans une certaine circonstance où elle n'avait pas eu à souffrir seulement dans son amour-propre et sa dignité. On sait de quelle importance est la première communion pour les enfants de la campagne. C'est après leur première communion qu'on les fait travailler, qu'on les met en apprentissage, qu'ils commencent à rapporter quelque chose à leurs parents. Tout ce qui retarderait ce moment de la première communion serait donc une charge que peu de parents accepteraient, et l'instituteur qui aurait la responsabilité de ce retard serait perdu, quel que fût d'ailleurs son mérite. À Ivranche, c'était le vicaire qui était chargé, comme de toutes les autres besognes pénibles, du catéchisme. Et c'était à lui qu'Hélène devait conduire celle de ses élèves qui se préparaient à la communion. Au milieu de l'hiver et au moment où la saison était la plus rigoureuse, il avait eu l'idée de faire le catéchisme chez les sœurs, où Hélène devait lui amener ses élèves. Si elle avait été bien reçue, cela eût déjà été assez cruel pour elle. Mais le plus souvent, elle n'était point reçue du tout. C'est-à-dire que quand le vicaire n'était point arrivé à l'heure fixée, on n'ouvrait point la porte et Hélène, avec ses élèves, devait attendre dans la rue, exposée au froid, au vent, à la neige. Au bout de 15 jours, Hélène avait gagné un grand rhume qui, n'étant pas soigné, s'était changé en bronchite avec extinction de voix. Elle avait continué de travailler et de venir au catéchisme, si âpre que fut le froid et si longue que fut l'attente. Seulement, pour ne pas s'engourdir, elle avait voulu jouer avec ses élèves en attendant. Mais la sœur Philigone était sortie, la moustache hérissée, cette fameuse moustache que Pelledieu devait faire, en disant que le bruit troublait la classe, et Hélène avait dû rester immobile, collée au mur, pour être moins exposée au vent. Elle était là, toussant à rendre l'âme, lorsque l'abbé Pierrichard, en retard d'une heure, était enfin arrivé, se hâtant pour se réchauffer. De loin, il avait entendu la toux d'Hélène. « Pourquoi n'êtes-vous pas entré ?» « Par ce froid, c'est absurde. »«
Parce qu'on n'ouvre que lorsque vous arrivez. »«
Alors entrez vite, » dit-il d'une voix adoucie. Puis, comme elle passait sous la grande porte, il s'approcha d'elle. « Vous tremblez ?»«
Oui, j'ai froid, ce n'est rien. »
Il entra vivement dans la classe, et allant au poêle qui ronflait,
« Approchez-vous, asseyez-vous là. »
Elle ne l'avait jamais entendu parler si doucement. Quant aux élèves, elles étaient stupéfaites. La sœur Philigone était indignée, la sœur Ambroisine interdite. Il s'adressa à celle-ci.
« Vous devez avoir de la tisane chaude, » dit-il. « Donnez-en une tasse bien sucrée à Mademoiselle Marguerite. C'est une abomination de l'avoir laissée dehors par ce temps. »
Puis il sortit, tandis que la sœur Ambroisine donnait à Hélène, presque tendrement, une tasse de tisane bien sucrée, comme l'avait recommandé le vicaire. Au bout de quelques minutes, il rentra. Hélène ne toussait plus, elle ne tremblait plus. Ce n'était plus le même homme. Il avait repris son air dur et violent.
« Allons, la maîtresse d'école, » dit-il sans la regarder. « Surveillez vos élèves, n'est-ce pas ? Au travail !»